chez le Canadien de Montréal aujourd'hui, Claude Julien a parlé de ses trios. Bon, mais évidemment, on encense nos joueurs, c'est ce qu'on veut faire. On veut leur donner confiance à l'approche du tour de qualification face aux Pingouins de Pittsburgh. Je vous rappelle, ça sera le 1er août prochain, samedi le 1er août, 20h, présenté sur l'ensemble du réseau Cogeco. Bon, donc on encense ses trios. Il a dit avoir confiance à son premier trio parce que son premier trio, composé de Dano, de Tatar, Gallagher, devra affronter Crosby, devra affronter Malkin, devra affronter Genzel, devra affronter une multitude de joueurs qui assurément donneront beaucoup de difficultés aux Canadiens. Est-ce possible pour le premier trio du Canadien de compétitionner contre les Pingouins? Danny Dubé est avec nous. Salut, Danny.
Salut, Jérémy.
Petite question quiz comme ça. Est-ce que tu partages l'enthousiasme de Claude Julien envers son premier trio?
Non, ben oui, il a raison. Écoute, c'est un trio vraiment qui n'a absolument rien à envier aux autres trios de la Ligue nationale. C'est un trio, premier trio qui n'est pas prolifique, mais c'est un trio très fiable. Et dans la mentalité de Claude Julien, il peut l'utiliser à toutes les sauces, dans le sens qu'il peut faire jouer contre n'importe quel trio de la Ligue nationale. Il sait que Philippe Danault va être au rendez-vous, c'est un compétiteur, que Gallagher en est un, sans aucun doute, et que Tatar complète admirablement bien ce trio-là. Moi, je suis pas... Mon inquiétude, c'est pas ce trio-là.
C'est quoi ton inquiétude?
Ben, mon inquiétude...
Tu vas me dire le reste?
c'est ça, c'est la profondeur, parce que... Écoute, si on réussit à museler Crosby, il reste quand même... Zucker puis Malkin sur l'autre unité, parce que là, Gunzel est de retour. Donc, ça, c'est un marqueur qui est vraiment exceptionnel, que les Pingouins ont repêché en troisième ronde, puis qui est devenu une vedette pratiquement instantanée au sein de l'équipe. Et on le fait jouer avec Crosby. Puis, écoute, ça donne des résultats. Donc, et moi, je pense que le problème du Canadien, ça va être le troisième, le quatrième trio. Ça va être la profondeur de l'équipe face à la profondeur des Pingouins. Je pense que c'est là où il va vraiment avoir un vide. Il va avoir un manque. Maintenant, si on regarde de façon générale, les Pingouins sont bien meilleurs que le Canadien. C'est une meilleure équipe offensive. Puis ça explique un peu le type d'entraînement qu'on a eu aujourd'hui.
Explique.
Ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a senti que Claude Julien travaillait beaucoup sur les responsabilités individuelles puis sur le jeu en fond de territoire. Donc, la défensive de zone, les récupérations de rondelles, les transitions. Parce que, imagine, là, tu places, je sais pas moi, tu dis, bon, t'envoies ton quatrième trio, puis c'est Jake Evans qui est sur le quatrième trio, là. Mm-hmm. Puis, il se retrouve parce que le Canadien n'a pas le dernier changement contre Malkin. En partant... C'est sûr que Malkin va amener la rondelle en fond de territoire, puis il va défier le défenseur, puis il va défier le joueur de centre. C'est sûr qu'ils vont essayer de garder la rondelle en fond de territoire. Donc, il faut absolument que le Canadien limite ses erreurs individuelles. Il faut que le Canadien soit meilleur collectivement que les Pingouins, parce que les Pingouins sont bien meilleurs individuellement. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est il faut le moins possible échapper la rondelle dans les situations critiques, perdre la rondelle aux mains de ces joueurs-là. Et si c'est le cas, ben que collectivement, on est capable de défendre dans la mesure où on a un bon synchronisme et on travaille bien ensemble.
OK, j'aime vraiment l'observation que tu apportes parce que si on regarde, tu as parlé de Malkin, mais Crosby, c'est encore pire. J'ai l'impression que ce gars-là a gagné sa vie en étant bon derrière le filet, avec la force de ses jambes, protège la rondelle. Il est extrêmement rapide dans les changements de direction. Donc, lui, ça va se passer là. Fait que donc, comment le Canadien doit agir dans son territoire quand tu vois un Malkin, tu vois un Crosby qui contrôle la rondelle puis que tu n'es pas capable d'y enlever derrière le filet? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ben, on appelle ça de la surcharge défensive, du doublage. Il y a toutes sortes de mots pour dire on place deux joueurs contre un. On force le jeu en défensive. Aussitôt que la rondelle arrive dans un espace qui est plus restreint, donc on limite le temps. Et on limite, évidemment, la marge de manœuvre à l'adversaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une deuxième vague rapidement. Donc, le défenseur n'a pas le droit d'hésiter. Il part après Crosby, même s'il sait qu'il peut se faire battre, il part après. Pourquoi? Pour forcer Crosby à garder la rondelle ou à faire un jeu rapidement. Et là, le deuxième joueur, qui est tout près, derrière, habituellement une distance de bâton, réagit. Et là, il est tout de suite près du joueur qui est dangereux, du porteur de la rondelle. Dans ce cas-ci, c'est Crosby. Ça peut être certains autres joueurs dominants dans la Ligue nationale. Et là, tu viens faire du doublage défensif. Donc, tu places deux, parce qu'il est tellement bon, tu en mets deux contre lui. En d'autres mots, là, c'est ce que tu essaies de faire. Mais tu fais ça avec une certaine distance. Comme ça, celui qui est derrière, il est en situation de réaction. Et tout le monde joue très, très serré. Donc, les lignes de passe sont presque toutes coupées. Et ça force Crosby à prendre des chances. Puis ça, bien, habituellement, tu es capable de récupérer des rondelles puis de provoquer des situations de revirement, même si c'est des joueurs élites dans la Ligue nationale.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas voir personne avec le bâton à taille dans le territoire du Canadien pour les joueurs du Canadien, c'est ça?
Non. Faire replacer son casque.
Ah, c'est ça. En train de regarder au banc pour lever la main pour un changement.
Non, tu n'auras pas beaucoup de temps pour relaxer.
Non, mais c'est intéressant que tu apportes ça parce que je me questionnais, je me disais, tu sais, combien de temps ça va prendre pour le Canadien? Puis c'est drôle parce que j'ai posé la question à Jacques Martin. On a eu Jacques Martin un petit peu plus tôt à l'émission. Mm-hmm. Puis j'ai posé la question, ça prend combien de temps avant qu'on commence à penser aux séries? Parce que là, c'est le fun, on enlève la rouille, parfait, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut que tu commences. Tu n'as pas un camp d'entraînement d'un mois et demi. Là. Il faut que tu commences à penser en fonction d'adversaires un peu aussi.
Ben écoute, moi je pense que les Pingouins, depuis le jour 1, là, depuis que ça a été annoncé que ça allait jouer, les autres pensent à la Coupe Stanley parce qu'ils sont en santé. Comme je te disais l'autre jour, c'est rare que les Pingouins sont en santé. Ils n'ont pas de blessés. Là. Mmh. Il peut y avoir la COVID, là, on le vit ce qui est sur les lignes de côté, mais le net-net, là, c'est que c'est une équipe qui devrait commencer les séries en pleine forme. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé aux Pingouins de Pittsburgh, tu sais. Et ça va être la même chose pour les autres. Alors, on va voir la vraie valeur de certaines de ces équipes de haut de classement, des équipes beaucoup plus fortes avec des joueurs élites qui pivotent qui représentent la colonne vertébrale de ces équipes-là. Évidemment, les Pingouins, c'est une équipe émérite, là, ils ont tout prouvé, là, ils n'ont rien à prouver, mais je pense que c'est l'appétit, c'est le désir de gagner qui est généré dans le vestiaire par Crosby, par ensuite les autres qui suivent, les Malkin et il y a également le temps. Il y a quelques joueurs, là, on sent que leur niveau de compétition est très élevé, mais l'âme de cette équipe, c'est quand même Crosby, là.
C'est un compétiteur hors pair, c'est un leader. Moi, personnellement, je trouve que ce gars-là amène tellement de formation. Puis c'est facile à dire parce que les statistiques sont là, parce que les victoires sont là, mais au-delà de tout ça, de la façon... Je voyais encore des images, là, pendant le camp d'entraînement des Pingouins, c'est le premier sur la glace, il est tout seul, là, il prend des lancers. Tu sais, si t'appelles Sidney Crosby, tu pourrais facilement dire, regarde, je me la joue relax un peu. C'est pas son cas, c'est une machine de hockey.
Ouais, mais je pense pas que les gens regardent un joueur comme Sidney Crosby et s'imaginent que c'est un paresseux ou qu'il prend les choses à la légère. Je pense qu'aujourd'hui, là, en n'importe quelle sphère de la société, si tu veux être bon, tu vas mettre l'ardeur au travail. Et c'est impossible de réussir juste avec ton talent. Ton talent va t'offrir des opportunités, c'est sûr. Là. Le talent que tu as va toujours te permettre, ou quand je dis toujours, pendant un certain temps, tu vas pouvoir avoir des opportunités. Les gens vont croire en ton talent. Mais si tu n'es pas capable de convertir ton talent en résultat, de convertir ton talent en réussite, bien, ça veut dire que là, il manque d'autres choses. C'est dans l'attitude, dans la détermination, dans l'éthique de travail, ça peut être le leadership, parce que souvent, un bon joueur doit démontrer un certain leadership. Sinon, ça devient juste, justement, il ne devient pas un leader, il devient un bon joueur. Un bon joueur, ça se remplace. Un leader, ça se remplace beaucoup plus difficilement. Donc, les gars comme Crosby, c'est des joueurs qui se remplacent pas. Tu sais, ça prend des décennies avant d'en trouver un autre. C'est des joueurs d'exception. C'est des joueurs qui font que la franchise, la concession, l'équipe, quand tu parles, tu dis les Pingouins de Pittsburgh. Avant, tu pensais à... Écoute, là, c'est pas rien. Là. Tu dis les Pingouins de Pittsburgh. Là, les gens, avant, on disait, bon, les Pingouins de Pittsburgh, voyons. Tu penses aux Pingouins, tu penses à Mario Lemieux. Mm-hmm. Tu ne penses plus à Mario Lemieux.
Tu penses à Crosby maintenant.
Tu penses à Crosby. Mm-hmm. Donc, ça dit à quel point ce joueur-là est exceptionnel. Il a ramené la Coupe à Pittsburgh, il a fait des choses exceptionnelles au sein de l'équipe. Il en fait encore, c'est un ambassadeur hors pair pour la Ligue nationale. Des cas comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. Et nous, on a eu l'occasion de le voir dans les compétitions internationales, d'être confronté aux grandes puissances. Puis de porter l'unifolier, puis d'être le gars qui portait le logo du Canada sur son chandail, puis on sentait que ça voulait dire quelque chose. Il y a des joueurs comme ça d'exception. Lui, c'est dans une, il est dans une classe à part. Moi, tu sais, dans ma carrière journalistique, puis après, avant, j'ai eu la chance d'y aller aux Olympiques. Je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. J'ai vécu les championnats du monde. Je sais ce que ça représente pour les joueurs de gagner une médaille pour ton pays, etc. Tu le vois dans le comportement des joueurs. Moi, ça m'a donné ces éléments-là, ce que j'ai vécu, ça m'a donné un privilège d'avoir un regard peut-être un peu plus aiguisé, un peu plus raffiné sur les comportements des joueurs, des attitudes des joueurs. Mmh. Puis, il y a un tas de joueurs à la remorque des autres, puis Crosby n'est pas à la remorque de personne. C'est lui qui dicte le ton.
Est-ce que tu pourrais utiliser ton regard aiguisé pour mettre tes yeux sur Nick Suzuki? Je me questionne, je me demande comment le jeune va réagir dans une compétition 3-5 face aux Pingouins, face à des joueurs qui sont dominants comme ça, avec sa capacité de comprendre, avec son talent, mais en même temps avec son inexpérience. Comment lui va réagir là-dedans, selon toi?
Moi, ce que j'aime de Nick Suzuki, et c'est une grande qualité pour un jeune joueur, c'est son calme. Donc, c'est une force tranquille. C'est un gars qui est très cartésien, qui aime comprendre des choses. La façon dont il joue, il découpe la glace. En d'autres mots, il ne couraille pas. Mm. Il est toujours au bon endroit. Je ne suis plus inquiet pour Kotkaniemi. Je ne suis plus inquiet pour certains joueurs au sein de l'équipe du Canadien de Montréal. Mais je veux dire, même Jake Evans, là, c'est un joueur intelligent. Il a ses limites. Ce n'est pas un patineur exceptionnel. C'est pas,
il est... Il comprend en game. Là.
Il est ordinaire partout, sauf qu'il est super intelligent.
Okay.
Non, mais c'est vrai. Il est ordinaire partout.
Il est bon
dans
ses mises en jeu, par contre.
Oui, les mises en jeu, c'est beaucoup amélioré, mais ça demeure un joueur. Ben, je veux dire, il n'est pas dominant dans, le sac de mises en jeu. Là.
Non.
Il est correct. Donc, on va dire qu'il est correct partout. Il rencontre les standards, mais j'aime le fait que c'est un joueur qui est très brillant sur la patinoire et que. Rarement, il se fait battre parce qu'il est hors position, parce qu'il a pris une mauvaise décision. Quand il se fait battre, c'est parce qu'il se fait battre par un joueur qui est meilleur que lui ou qui est plus fort que lui, plus fort et plus agile. En fait, là où il peut pas vraiment compétitionner. Donc ça veut dire que ce gars-là, il te donne quand même du bon hockey. Puis je pense qu'on va le découvrir durant les séries contre les Penguins de Pittsburgh parce que d'après moi, il va faire du bon travail, comme Nick Suzuki va faire du bon travail. Je regarde autour de lui... Comment il va prendre le leadership de son trio, ça c'est une autre histoire. Parce que là, c'est plus difficile pour un jeune de prendre le contrôle, de prendre charge. Tu sais, là, il va falloir qu'il démontre un peu plus de leadership et qu'il prenne le contrôle du trio. Bon, là, actuellement, il est avec Armia puis Drouin.
Tu parles de Suzuki là, qui est avec Armia et Drouin, là?
Oui, c'est ça.
OK, oui, parfait.
Mais malgré tout, Jérémy, ça devrait quand même être lui le leader du trio. Mm-hmm. Et ça. Ça, c'est un enjeu qui est majeur. Ça, c'est pas évident. Là. Ça, je pense pas qu'il est prêt pour faire ça. Mais tout le reste, de faire face à la musique, de bien jouer, il va bien jouer. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de tenir le coup, de produire? Écoute, la beauté, c'est une courte série. Donc, il n'y aura pas beaucoup de temps pour les ajustements. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour la guerre d'usure, la guerre de tranchées. Et ça pourrait favoriser l'énergie des jeunes. Un peu la naïveté des jeunes, tu sais, l'enthousiasme, puis tout ça. Alors, ça, c'est un élément qui pourrait permettre peut-être aux Canadiens d'arracher une victoire puis de créer peut-être un peu le doute dans l'esprit des Pingouins. On verra bien, là. Mais écoute, sur papier, puis les matchs se jouent pas sur papier, mais sur papier, il n'y a pas photo.
Non, ça, c'est clair. Danny, j'ai deux questions avant qu'on se quitte. La première question, je veux te parler des candidats pour le Jack Adams. C'est sorti aujourd'hui. Bruce Cassidy des Bruins de Boston, Alain Vigneault des Flyers de Philadelphie, John Tortorella des Blue Jackets de Columbus. Martin nous a dit que vous aviez apposé votre griffe à tout ça parce que vous faites partie de ce comité qui a le droit de voter là-dessus. Parle-moi de ces candidatures pour le Jack Adams.
Ben écoute, moi, je pense que Tortorella mérite beaucoup de crédit. John Tortorella, cette année, là, ce qu'il a réussi à faire, lui, Alain Vigneault, pour moi, c'est des entraîneurs qui ont accompli beaucoup de choses cette année. C'est des gars que je considère vraiment très, très fortement. Mais honnêtement, quand tu regardes ce que Cassidy a fait au cours des dernières années avec les Bruins de Boston, c'est un choix logique parce que il est arrivé à pied levé, je trouve que on sent quand on voit jouer les Bruins que c'est un entraîneur qui est en contrôle. Mm-hmm. Il a le pouls de son équipe, il gère bien son équipe, Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, tu vois le... Puis ça, c'est peut-être un élément. Alain Vigneault, on sent ça aussi, mais disons que Alain est dans la lune de miel, là. Et c'est le début avec les Flyers de Philadelphie, donc c'est peut-être plus facile. Mais Alain a toujours été un entraîneur qui avait quand même, on sentait très en contrôle avec ses joueurs et tout ça. Moins dans le cas de Tortorella. Puis moi, ben j'aime beaucoup la candidature de Cassidy cette année pour l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, c'est quand tu regardes ce qu'il a réussi à faire avec les Bruins de Boston au fil du temps. Je pense que c'est un candidat qui est très sérieux.
OK. J'ajoute un petit bout, OK? Pasternak, Marchand, Bergeron. Il me semble que c'est trois raisons pour faire un bon coach, hein?
Tuukka Rask, le système de recrutement des Bruins de Boston. Il n'y a pas d'entraîneurs, Jérémy, qui sont exclus. Il n'y a pas d'entraîneurs qui peuvent réussir sans avoir le soutien d'une organisation qui fait du bon travail de recrutement et de développement. Ça n'arrive pas. Regarde toutes les organisations au fil du temps qui ont de la difficulté à repêcher et à développer. C'est les entraîneurs qui paient la note. Les entraîneurs perdent leur emploi. Les entraîneurs sont lapidés sur la place publique. Mais fondamentalement, lorsque tu as des bons éléments, si tu es un bon entraîneur, tu vas les amener à la terre promise, disons ça comme ça. Puis sinon, ben c'est toi qui vas perdre ton job. Donc, tu sais, moi, je pense que de plus en plus, les organisations de la Ligue nationale qui gardent leurs entraîneurs en place pendant un certain temps, ce sont des organisations qui gèrent très bien leur personnel à hockey, donc qui trouvent du talent, qui développent le talent, qui détectent le talent et qui trouvent aussi le talent dans les équipes adverses. T'sais, parce qu'il y a du talent qui traîne. Là. Il y en a qui, il faut à un moment donné, donner aussi crédit à ceux qui sont capables de faire du bon mouvement personnel dans la Ligue nationale. Donc, je pense que ça, c'est jamais exclu. C'est un ensemble de choses qui fait que l'entraîneur est récompensé. Mais pour moi, de plus en plus, là, les organisations qui repêchent bien, les entraîneurs ont plus de longévité de carrière dans cette même organisation et plus de stabilité.
Disons que ça l'aide à être un meilleur coach quand tu as des bons éléments. Des fois, c'est difficile. Le coach peut être bon, mais si t'as pas de poulain, ben à quelque part, tu peux pas faire des miracles, ça, c'est sûr et certain. Là.
Ben c'est sûr. Puis tu regardes les jeunes. Quand tu rentres des jeunes dans ton alignement, puis tu as déjà un bon noyau, c'est facile d'intégrer des jeunes parce qu'ils ont moins de pression. Ton noyau est solide. Et donc, l'entraîneur en bénéficie parce que même si le noyau est solide, puis tu rentres des jeunes, puis bon, ils sont bien pris en charge par les vétérans, il reste que ça crée de la compétition à l'interne. Puis ça crée un certain mouvement de personnel, ça donne de la latitude à l'entraîneur. Si tu réussis à créer un environnement qui est compétitif, c'est toujours sain pour l'organisation. C'est l'organisation qui en sort grandi.
Exactement.
S'il n'y a pas de compétition à l'interne parce que les joueurs ne sont pas assez bons, bien là, à un moment donné, là, ça ramollit. Là. Il y a un petit peu de, je dirais pas de relâchement, mais c'est sûr que les vétérans se sentent moins menacés, ça pousse moins.
Ben en tout cas, Danny Dubé, tu es un bon coach pour nous. On apprécie énormément ta présence. Merci d'avoir été avec nous, Danny.
Un plaisir.
Merci, au revoir. Danny Dubé, on s'arrête quelques instants. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco.